Le verset que vous voyez, enfin la déclaration de ce que Dieu dit ici dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26, c'est ce qui a été déclaré la semaine dernière d'une manière prophétique sur l'Église. Vous savez, lorsque Dieu dit ça, c'est dans un contexte d'un peuple qui a été sauvé d'Égypte, qui a été libéré d'Égypte, qui a été amené hors d'Égypte. Et la première des choses sur laquelle ce peuple tombe en sortant d'Égypte, c'est qu'ils ont soif, ils boivent de l'eau, ils arrivent dans un endroit où l'eau est amère, elle est impropre à la consommation. Et là, Dieu dit à Moïse, il lui montre un bâton, il lui dit « trempe dans l'eau ». Et ce bâton qui est trempé dans l'eau est l'image de la croix qui peut être trempée dans la vie des gens pour que ce qui est amer devienne doux. Et l'eau se transforme en une belle eau, une bonne eau qui va rafraîchir tout un peuple. Et à la fin de ce passage des eaux de Marah, Marah en hébreu ça veut dire amer, à la fin de ce passage, Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et dimanche dernier, ça a été vraiment un impact dans mon cœur lorsque j'ai lu ça. Et je me suis dit, Seigneur, il ne faut pas en rester là. Et il faut, je crois, à un moment donné, prendre conscience que Dieu veut toucher les âmes, les esprits et les corps des gens. Ça peut vous paraître un peu fou ce que je vous dis, mais Dieu tient compte de tout notre être. En réalité, lorsqu'il va chercher ce peuple d'Égypte, ce qui l'intéresse, ce n'est pas simplement de les sauver spirituellement, de les enlever de l'Égypte, mais il veut leur faire du bien aussi, physiquement. Et vous savez, souvent, dans des milieux évangéliques ou dans les milieux chrétiens, on se dit oh, « ce qui est important surtout, c'est le salut de l'âme ». Et je suis d'accord avec cela. Mais je trouve que cette déclaration est incomplète. Parce que lorsque Dieu m'a pris, il m'a pris tout entier. D'ailleurs, un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, enfin, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, il m'a dit, Bruno, je veux tout de toi. Je ne veux pas simplement un peu de tes pensées. Je ne veux pas un peu de tes mains. Je veux pas un peu. Il dit, je veux tout. Et lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, lorsque quelqu'un entend l'Évangile, lorsque quelqu'un entend que Jésus veut diriger notre vie, il veut diriger tous les domaines de notre vie, le corps, l'âme et l'esprit de la personne. Et ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la Bible qui le déclare. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au même moment où j'ai reçu ça, ce passage prophétiquement, on était en train, à l'époque, on venait de conclure, vous savez que tous les jeudis soirs à la maison, on est un petit groupe, alors des fois on est 6, des fois on est 10, 12, peu importe, mais on prend un thème, je prépare des passages bibliques et on répond à des questions ensemble. Et le thème que nous avons choisi, que j'avais choisi de manière arbitraire, c'est normal, c'est moi le pasteur, donc je décide de tout. Et le thème que j'ai choisi, c'était la guérison. Un peu par hasard, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas forcément, j'avais pas vraiment. Mais ça m'avait interpellé parce que lors d'une réunion de prière, je me souviens avec Alice, hein, on était sortis de là en se disant, mais qu'est-ce qu'on voudrait voir des gens être guéris? Et qu'est-ce qu'on voudrait voir que Dieu se manifeste d'une manière puissante dans la vie des gens? Et lorsque vous voyez Jésus arriver sur terre et commencer son ministère, il fait quelque chose. Il annonce le royaume de Dieu. Il annonce, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Et que fait-il? Il est écrit en Marc chapitre 1er verset 15, je crois. Vous irez vérifier. Il dit qu'il guérit les maladies et qu'il chassait les démons. Ça veut dire que lorsque Jésus annonce la bonne nouvelle, il y a automatiquement derrière quelque chose de puissant qui se passe. Et Jésus, en fait, il était venu pour rétablir quelque chose dans la vie des gens. Comme ce peuple-là, dans le livre d'Exode, Ce peuple, dans le livre d'Exode, avait subi des sévices, il avait subi des choses. Ils avaient été troublés dans leur mentalité. C'était une mentalité d'esclave. Et quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », bien sûr, je te guéris de toutes les plaies physiques, mais je vais guérir aussi ton cœur. Parce que tu te comportais comme un esclave, comme quelqu'un qui a un cœur d'orphelin. Vous avez entendu un message dernièrement, peut-être dans cette communauté. Tu te comportes comme quelqu'un qui est orphelin. Et moi, je veux devenir pour toi le Dieu qui te guérit, un Père qui va prendre soin de toi. Et ce que nous remarquons, c'est que Jésus, il avait compris quelque chose. C'est normal, c'est le Fils de Dieu, vous allez me dire. Mais quelque chose que nous devons comprendre, c'est que notre corps est soumis à la puissance du péché. Autrement dit, quand tu désobéis à la loi divine, automatiquement, il y a quelque chose dans ton corps, dans ton cœur, ou dans ton âme, ou dans ton esprit qui va se passer. C'est la loi du péché qui m'amène vers ça. Et parce que, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, la loi du péché, c'est la mort. C'est pour ça que nous allons tous mourir. Parce que notre corps est appelé, il est sous cette malédiction-là. Et lorsque Jésus vient, quand il dit « le royaume de Dieu s'est approché de vous », il est en train de déclarer que son royaume à lui est plus puissant que le royaume de la mort. Plus puissant que le royaume du péché, plus puissant que le royaume de Satan. Parce que Satan tenait des personnes liées, puisqu'il est écrit qu'il chassait les démons, qu'il guérissait les maladies. Et parfois même en guérissant, pour guérir, il devait chasser des démons. Et souvent, l'origine des maladies sont d'origine démoniaque. Je ne vous fais pas peur, hein. Ce n'est pas parce que vous avez la grippe que vous avez un démon. Hein. Mais néanmoins, il y a quand même une influence de Satan dans la vie des gens. Et quand Jésus arrive et qu'il proclame l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, quand il déclare « Voici, le royaume de Dieu s'est approché de vous », il est en train de dire à vous, à nous, aux gens de l'époque, mais aussi à Satan, « Ton règne est terminé, mon gars. Maintenant, je vais venir et je vais rétablir ce qui était prévu dès l'origine. » Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué. C'est que souvent, Jésus a amené la foi dans la vie des gens. Parce que semble-t-il, et je ne dis même pas semble-t-il, c'est une évidence. Pour être guéri, il faut avoir la foi en quelque chose. C'est le point commun que nous avions trouvé dans notre bibliogroupe. Vous me dites si je me suis trompé, hein. Mais c'est exactement ce que nous... À chaque fois, il y avait un point commun, c'était soit la foi de la personne qui était malade, soit la foi de la personne qui priait, soit c'était les deux. Parfois, même c'était un intermédiaire. Un jour, Jésus a guéri le serviteur d'un centenier. C'était même pas le malade qui est guéri, c'est la foi du centenier qui dit « t'as même pas la peine de venir voir mon serviteur. Il te suffit de dire une parole et mon serviteur sera guéri. » Vous connaissez sans doute ce passage. Et donc, lorsque Jésus amène cette dimension de foi, il est en train de nous dire, et je comprends ça, que parfois, notre foi n'est pas de la foi. Je vous perds là. C'est que notre foi en la guérison est basée sur notre expérience. Souvent, notre foi est basée sur ce que nous avons entendu dire. Souvent, notre foi est basée sur l'expérience des autres. Or, la foi en Dieu et en la guérison doit être basée sur ce que Dieu dit. Et il y a quelque chose que j'ai envie de vous communiquer ce matin. Je veux avoir la foi que Dieu me dit. Autrement dit, quand il me dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », je veux avoir la foi en l'Éternel qui me guérit. Pas en la foi en mes circonstances, pas en la foi en toutes les situations où j'ai prié pour quelqu'un et je n'ai pas vu la guérison. Et il ne faut pas beaucoup de foi pour être guéri. J'ai expliqué peut-être ça dernièrement, mais l'été dernier, nos enfants vont habiter dans la région parisienne. La veille, mon épouse, on va chercher la camionnette là pour mettre les meubles dedans. Mon épouse se tord la cheville. La cheville avait triplé de volume. Et ma femme se tordait de douleur le soir. Et le lendemain matin, 6 heures, on devait se lever, aller chercher tout le monde, là, et puis partir dans le... Et on s'était dit, mon épouse me dit, mais jamais je ne pourrai aller demain faire l'emménagement des enfants. Et vous savez ce que j'ai fait? Elle était allongée sur le canapé, j'ai été toucher sa cheville, j'ai dit, au nom de Jésus, cheville, sois guérie. Et mon épouse, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, t'es gonflée quand même, t'as vu ta prière? Parce que pour guérir, il faut la foi, il ne faut pas des heures de prière. Entendez bien ceci. Pour être guéri, il faut juste compter sur ce que Dieu nous dit à un moment donné. Bon, là, c'est l'introduction, je vais avancer un peu. L'Éternel s'est toujours fait connaître à son peuple comme son médecin. Toujours. Jamais il s'est montré comme quelqu'un qui voulait détruire, mais toujours guérir. La venue de Jésus s'est accompagnée d'une effusion de la miséricorde et de la compassion de Dieu qui s'est manifestée par la guérison. Vous lisez les évangiles, les livres des actes sont remplis de guérison, remplis. Lorsqu'il y a une proclamation de la parole, de l'évangile, de la bonne nouvelle, il y a toujours manifestation de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et Dieu, quand il guérit, c'est pas pour dire, t'as vu, c'est moi Dieu. Ça, c'est le cœur humain qui agit comme ça. Mais quand Dieu guérit, touche une personne, il a dit, je te guéris parce que je t'aime, parce que j'ai compassion, parce que j'ai beaucoup de miséricorde à ton sujet. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas la foi pour ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vivent avec un cœur d'orphelin. Parce que ce sont des gens, parce que les personnes, et tous autant qu'on est, il y a une part de notre cœur qui rejette l'amour du Père, l'amour de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la maladie est considérée comme une extension et un effet du péché, je vous l'ai dit, d'origine mauvaise, représentant le royaume de Satan. Et Jésus annonça que le royaume de Dieu s'est approché, il commence à guérir et à chasser les démons. Et quand Jésus guérit un homme possédé d'un démon, il était aveugle et muet. Et c'était un démon. Il dit aux pharisiens, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Et moi j'ai une conviction, c'est que Dieu veut amener le royaume jusque dans la vie des gens. Il veut amener le royaume dans ton cœur, il veut amener le royaume dans ta famille, il veut amener le royaume à ton boulot, il veut ramener le royaume dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime, parce qu'il est miséricordieux et parce qu'il veut vraiment nous communiquer la vie. C'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Le désir de Dieu, donc, c'est de nous faire goûter aux joies et aux bénédictions de son royaume. Il y a la guérison et plein d'autres choses. Je me rends compte combien j'ai goûté aux joies des prières qui étaient exaucées. Et ça, c'est Dieu qui donne. Et lui qui a créé toute chose, ne saura-t-il pas recréer une cellule, un os, enfin guérir la vie des gens? Alors, je vais avancer. Il y a 4 verbes dans le Nouveau Testament. On ne va pas faire un cours de théologie. Hein. Alors, j'ai horreur de ça, moi. J'ai plus l'âge d'étudier. Mais 4 verbes qui déterminent, qui définissent le mot guérir dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir qu'en regardant la signification de ces mots, nous allons avoir la foi pour recevoir la guérison. Le premier mot, c'est yanomai, qui veut dire guérir physiquement et intérieurement. Et Jésus, entre autres, il cite 2 fois ce mot-là, car le peuple de car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ferment leurs oreilles et qui ferment leurs yeux et qui ferment leur cœur à l'amour de Dieu. C'est terrible. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais moi, il y a bien quelque chose qui me tuerait, c'est qu'un jour, un de mes enfants, mes belles-filles et mes petits-enfants viennent me dire « Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi. » C'est terrible. Et il y a des gens qui ferment leur cœur à l'amour de Dieu. qu'ils ferment leur cœur à une religion, qu'ils ferment leur cœur à un système religieux. Je l'entends, mais à l'amour de Dieu, on ne peut pas fermer son cœur. Et il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'ils se tournent vers Dieu, et que je ne les guérisse. Et le mot qu'il utilise ici, c'est le mot « yanomai », qui veut dire « guérir physiquement et intérieurement ». C'est-à-dire que lorsque Jésus déclare ceci, il déclare et il dit qu'il veut guérir le cœur de l'homme, mais il veut le guérir physiquement aussi. J'espère qu'il y a un peu de foi qui arrive là. Et lorsque Jacques écrit sa lettre et qu'il dit « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris », là encore le mot c'est « afin que vous soyez guéris intérieurement et physiquement ». Si je ne vous convainc pas maintenant que Dieu veut guérir votre cœur et votre corps, je suis un mauvais prédicateur. Parce que je vois là une certitude. C'est qu'un jour, Dieu est venu me toucher. Il est venu me parler. Il est venu me montrer que j'avais un problème dans ma vie, qui était le péché. Il m'a dit, il faut que ça soit réglé, garçon, parce que tu ne vas pas aller loin comme ça. Mais j'ai compris, moi, en lisant ceci, en vous préparant ce message, qu'il voulait bien plus que guérir mon cœur. Il voulait guérir même mon arthrose. Il voulait guérir mon dos. Il voulait guérir tous les domaines de ma vie, parce qu'il est le Dieu et l'Éternel qui me guérit. Le deuxième mot, c'est zozo. Alors, je vous préviens le premier qui rigole. Parce qu'on dit dans le Nord, hein, t'es zozo, tisota. C'est pas ça que ça veut dire. Je m'étais promis que je n'aurais pas fait celle-là, mais je suis désolé, Jean-Luc. Zozo, ouais, mais je l'ai transformé à ma mode. Il y a un dicton qui dit qu'un... Vous connaissez ? Non, je ne le dis pas. Ma femme m'a dit, tu le dis ? Si, je le dis quand même. Un cochon qui fait à sa mode, c'est la moitié de sa nourriture. Ça veut dire que le cochon qui mange, celui qui mange un cochon qui fait comme il mange comme il en a envie, ben c'est, tu lui as déjà donné à manger. Zozo ici, c'est rendre vivant, rendre sain. Je plaisante, mais je suis sérieux là. Rendre vivant et sain. Lorsque Jésus guérit un homme à la main atrophiée, c'était dans une synagogue. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de l'observer. Ils voient un gars qui a la main complètement sèche. Enfin, la main, vous voyez, Jamel Debbouze un peu, vous voyez ? Le gars comme ça. Et sa main est morte. Et que fait-il ? Il voit cet homme et il sait que les pharisiens sont en train de le regarder parce que c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est un jour important. Normalement, on a le droit de rien faire ce jour-là. Et Jésus dit, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver ? Même de guérir, on peut le mettre comme ça, il utilise le mot « zozaï ». Une personne ou Dieu l'a tué. Et Jésus, il amène ici la vie par la purification. Il utilise le mot ici « je rends vivant en rendant sain le corps de cet homme ». Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que parfois même, il y a des choses qui nous sont arrivées physiquement ou intérieurement, qui sont le fruit de quelque chose qui n'est pas bon, que nous avons comme une mauvaise graine qui est rentrée en nous. Et Jésus dit, même le jour du sabbat, je peux rendre sain ce que l'origine de ton mal. Donc le salut et la guérison sont indissociables. Quand Dieu te sauve, il te prend et il veut régler le problème qui te mine à l'intérieur. Vous savez, le problème qui mine pas mal de personnes, des choses intimes, la pornographie, plein de choses comme ça, le vol, le mensonge, vous savez, des choses, des graines qui sont en nous et on a beau faire des efforts et on n'y arrive pas. Vous avez déjà peut-être vécu ça. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne dis plus un seul mensonge. Ben, allez-y. Si Dieu n'agit pas et ne guérit pas, il ne se passera rien. Le salut et la guérison sont indissociables pour Jésus et Dieu ne s'intéresse pas uniquement au salut de l'âme, mais à notre bien-être physique. Le troisième mot, c'est le thérapeo, c'est le mot qui a donné thérapie, d'accord ? C'est le rétablissement immédiat et complet de la santé ne nécessitant aucune intervention extérieure, donc humaine. Donc c'est le miracle. Vous êtes d'accord avec moi ? Je peux dire que Dieu m'a guéri, par exemple, si j'étais malade gravement, que j'étais voir les médecins. Oui, Dieu peut utiliser des personnes comme ça. Et souvent, notre foi est basée là-dessus. Vous avez remarqué ? Souvent, on prie pour les malades. On dit, Seigneur, qu'ils soient bien dirigés vers le bon médecin, etc., etc. Ça, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, moi, j'interviens sans médecin. Moi, j'interviens sans qu'il y ait une intervention extérieure. C'est moi qui fais les choses. Ça, c'est pour amener votre foi à prier davantage, pas pour qu'il y ait des bons médecins ou des bons thérapeutes, mais pour que Jésus puisse intervenir directement. Et ce mot-là, alors c'est là où je veux vraiment insister, c'est le verbe le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Le plus. C'est incroyable, mais c'est le plus. C'est que lorsque Jésus guérissait, il guérissait instantanément et complètement la personne. Elle était rétablie dans ce qu'elle était. Waouh ! Et Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et là, je voudrais vraiment amener une parole de foi dans la vie des personnes qui souffrent depuis longtemps. Et j'en connais. Si je m'en tiens à ce que je viens de vous dire, ça veut dire que Dieu peut, malgré tout, vos souffrances passées, il peut intervenir immédiatement et complètement maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, il y a quelques personnes qui ont la foi ce matin. Le quatrième mot, le quatrième verbe c'est pour guérir, c'est... Alors, c'est imprononçable. Merci Seigneur que je n'ai jamais fait de grec. Apokastistémie, qui est redonner la santé à quelqu'un ou remettre en ordre comme ce qui était prévu dès l'origine. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Jésus prend à un moment donné un aveugle, il met les mains sur ses yeux et l'aveugle le regarda fixement. Il fut guéri, il vit tout distinctement. C'est-à-dire que Jésus a remis en ordre ses yeux. C'est-à-dire que cet homme, pourquoi avons-nous des yeux ? Pour voir. Pourquoi avons-nous des oreilles ? Pour voir. C'est pour ça que nous avons été créés. Et dans son amour, notre Père, notre Créateur nous a créés pour que nous puissions voir, nous puissions entendre, nous puissions parler, nous puissions respirer, marcher. Il nous a donné un corps. Ça, il le fait par amour, par compassion, miséricorde. Puis il a envie que nous soyons libres, mais véritablement libres. Et que fait-il ici ? Jésus rétablit dans l'origine. Et je vais même plus loin. Parfois et souvent, nous avons vu dans les évangiles la manifestation de la puissance de Dieu se révélant dans le corps de personnes qui étaient nées comme ça. Elles étaient nées aveugles, elles étaient nées paralysées, elles étaient nées possédées, elles étaient nées complètement tordues. Et que fait Dieu ? Il rétablit les choses comme à l'origine. Ça va bien plus loin de quelqu'un qui, à un moment donné, tombe aveugle. Ça va même au-delà, ça va même dans son passé, dans ses origines, ça va même dans le... Dieu retourne même dans le ventre de la mère de la personne. Il dit, je rétablis ce que j'avais prévu dès l'origine. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il le fait, pas pour dire, t'as vu, c'est moi Dieu. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce qu'il a compassion. Il l'a fait parce qu'il veut te voir et il veut que tu saisisses combien il t'aime, combien la manifestation de son amour est grande pour toi. Quatre verbes qui montrent ce que veut dire guérir, que notre Père s'intéresse à tout notre être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Esprit, âme et corps. Qu'il veut communiquer la vie par la guérison et la purification. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qu'il ne se réjouit pas de voir quelqu'un souffrir. Au contraire, il veut le guérir totalement, immédiatement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et enfin, qu'il veut rendre les situations comme elles étaient prévues dès l'origine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'en ai encore d'autres. La guérison voulue par Dieu est globale parce que le royaume de Dieu est venu apporter un ordre nouveau. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul déclare « Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. » Lorsque Paul déclare ceci, il déclare que quelqu'un est une nouvelle créature, c'est tout son être doit être renouvelé. Ah, c'est plus difficile, hein. Avoir la foi. Les guérisons sont des signes de la présence et de la puissance du royaume de Dieu, bien plus fort que le royaume de Satan, bien plus fort que ton passé, bien plus fort que ta maladie, bien plus fort parce que Dieu est Dieu. Et la guérison fait partie du plan de salut pour chacun des êtres humains. C'est-à-dire que tu peux même prier pour ta belle-mère si elle t'en fait voir de toutes les couleurs. Tu peux même prier pour ton collègue. Tu peux même prier pour ton pire ennemi. Parce que Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Tu peux même demander la guérison à celui qui te fait du mal ou celui qui t'a fait du mal. Est-ce que tu es prêt à faire ça ? Même prier pour celui qui t'a fait du mal. J'étais ébranlé ces derniers temps. Parce que j'ai reparlé à quelqu'un qui m'a fait du mal dans le passé. Et j'ai vécu une chose extraordinaire. J'ai vécu un temps où j'étais vraiment rempli de compassion, d'amour pour cette personne. Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en moi, qui vit en nous, c'est l'Esprit de miséricorde, de grâce, d'amour, de compassion, de guérison, de délivrance. Et le salut doit être accordé à quiconque nous entoure. Et j'en conclue maintenant par ce texte. Vous allez me dire, mais qui suis-je pour demander et prier pour la guérison ? Je ne suis qu'un homme. Et toi, tu n'es qu'une femme, ou un enfant, ou un vieillard, ou un jeune homme. Et tu as peu de foi. J'ai tellement peu de foi. Mais ma foi, elle repose sur quelque chose qui est bien plus grand que moi. Elle est basée là-dessus. Un jour, Jésus est venu sur la croix. Il est venu sur cette terre. Et qu'a fait Jésus ? Il a dit, Père, il était, voilà, dans les cieux avec le Père. Ils discutaient tous les deux. Il dit, Père, ça ne peut plus durer. Je vois l'humanité. Il dit, mon fils, iras-tu mourir pour les péchés des hommes ? Et un jour, Jésus est venu sur la terre. Il a commencé son ministère à 30 ans. Pendant 3 ans, il a prêché ce que je viens de vous dire en quelques minutes. Mais il n'a pas fait que parler, lui. Il a fait des choses. Et puis, au bout de 3 ans, il est allé sur la croix. Il s'est donné sur la croix. On ne l'a pas crucifié, c'est lui qui s'est donné sur la croix. Et il a dit, moi, je vais mourir. Et je vais faire en sorte que ce que tu déclares, Père, à la sortie d'Égypte à ce peuple, tu es l'Éternel qui guérit. Dis-moi, Seigneur, je vais tout faire et je vais aller sur la croix pour que ces gens de ma génération, mais les gens des générations suivantes, puissent découvrir ton amour, ta miséricorde et vivre la puissance de Dieu sur leur corps, sur leur âme, sur leur vie. Mépriser et abandonner des hommes, il est question de Jésus ici, d'une manière prophétique, 600 ans avant la venue de Jésus. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'en avons fait aucun cas de lui. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur aujourd'hui, mais peut-être que tu le dédaignes. Peut-être que tu t'en fous de ce que je viens de te raconter là. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Mais écoute, écoute ce qu'il te dit maintenant. Parce que c'est ça qui est important pour ta vie. Ce n'est pas ce que je dis, mais ce qui est écrit ici. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté tes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs intérieures, de tes douleurs physiques, de tes douleurs de l'âme. Il a tout porté. Il s'est chargé. C'est-à-dire que lorsqu'il est allé sur la croix, il a pris cela. Il a dit, vas-y Père, qu'il me crucifie avec tout ça. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour tes péchés. Blessé pour tes péchés. À chaque fois qu'on lui a donné un coup de fouet, c'est parce que c'est toi qui devais être à sa place. Et lui, il a pris tout cela pour lui. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Toute la malédiction qui vient sur ta vie, il l'a pris sur lui. Parce qu'il t'aime. Parce que c'est un Dieu miséricordieux, brisé pour nos iniquités. L'iniquité, ça veut dire tout ce qui est en désordre dans ta vie, tout ce qui n'est pas structuré dans ta vie. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'acte de la croix est un acte bien plus puissant que juste de te sauver. Juste de libérer ton âme d'un poids, de ta conscience. Il va plus loin que ça. C'est par tes meurtrissures que tu es guéri. Et le mot guéri ici, c'est le mot guérir physiquement et intérieurement. Tous les domaines de ta vie peuvent être guéris grâce au fait que Jésus est allé sur la croix. Il a tout porté. Et voilà ici ce qu'il dit. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a toujours un but dans ce qu'il fait. Tout est structuré, tout est con. Enfin, je découvre des choses. Les gens disent que la Bible est un livre mort, mais quand on plonge les regards, à l'instant, le Seigneur est en train de me dire, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quelle est ta vie aujourd'hui? Quelle est ta voie? Mais aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Nous marchons ensemble vers lui, vers un avenir bien plus glorieux que notre passé. Parce qu'il nous aime. Et quand Dieu veut te guérir, c'est toujours, toujours pour le ramener à lui et le ramener auprès de ses enfants. Toujours. Quel père se réjouit d'une famille divisée? Quel père pourrait se réjouir de voir un repas de famille et un seul de ses fils ou une seule de ses filles se retrouver à très loin de lui? Le cœur du père ne peut se réjouir que lorsque tous ses enfants sont rassemblés, lorsque tous ses enfants reviennent vers lui, lorsque tous ses enfants vivent ensemble. C'est pour ça qu'il a créé l'Église. C'est pour ça qu'il bâtit l'Église. C'est pour ça qu'il a fait de nous des croyants. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'espère vous avoir convaincu. J'espère vous avoir convaincu vraiment de tout mon cœur. Parce que Dieu veut guérir votre cœur. Il veut guérir votre vie. Il veut guérir votre âme. Il veut vous faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse, vraiment. Et qu'il manifeste son cœur de Père chaque jour. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Un acte de foi. Et ne comptez pas sur la mienne. Je suis mort de trouille en ce moment. Tout à l'heure, je me suis dit, mais tu es fou, Bruno. Pourquoi? Mais j'ai dit, Seigneur, je veux t'obéir. Parce que je lis quelque chose dans ta parole. Et je veux aller au-delà de mes peurs. Aller au-delà de mes expériences du passé. Aller au-delà de tout ce que j'ai pu vivre. Même si j'ai vécu des guérisons. Même si j'ai vu des personnes être guéries déjà. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut vous donner ce matin. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez... On va incliner nos fronts ce matin. Pourquoi? Comme des hommes religieux. Non, c'est pas ça. C'est pour que vous ne puissiez pas vous sentir visé. D'accord? Il n'y a que moi qui ai le droit de vous voir. C'est mon privilège. Si ce matin, il y a des personnes qui veulent être guéries dans leur cœur intérieur, dans leur fort intérieur, dans leur âme, et je vois une personne qui a eu un père violent, qui a été battu par son père. C'est un homme qui a été battu très jeune. Le père de cette personne était une personne très violente, vraiment. Alors je me demande si cette personne même n'avait pas des tendances à boire un peu trop. Mais en tout cas, le Seigneur veut te dire ce matin, je veux guérir ça. Je veux guérir ça dans ta vie. Et je veux te montrer l'amour que j'ai pour toi. Si vous avez une blessure de l'âme, si je sais que dernièrement, il y a un message qui nous a été importé, sur qu'on, beaucoup d'entre nous avions des cœurs d'orphelins, nous n'avions pas de père. Si tu as besoin d'être guéri de ton orphelinat, si je puis dire, demande à l'amour de Dieu de venir. Et enfin, on va même aller plus loin. Si vous connaissez, si vous-même vous êtes malade, vous demandez la guérison maintenant. Et vous demandez au Seigneur, touche mon corps et délivre-moi du mal. Touche ma vie. Et si vous avez besoin de la prière de quelqu'un, comptez pas sur moi, vous comptez sur votre voisin. Vous tapotez sur le côté, un coup de coude, et vous lui dites, est-ce que tu veux prier pour moi? On va prendre 5 minutes, pas plus. Mais que ce soit un acte de foi, un acte que nous posons, comme un acte d'obéissance à ce que Dieu dit, pas à ce que... Alors s'il vous plaît, mettez de côté vos expériences du passé. Mettez de côté tout ce que vous avez pu vivre dans le passé. Entendre. Alors, on n'est pas dans une secte ici. Nous sommes dans un endroit où nous voulons voir Dieu se manifester avec puissance. Et demandez ces choses ce matin. Si vous avez besoin de prier pour vos enfants, faites-le, priez pour vos enfants. Déclarez la guérison. Une prière courte. Si vous avez besoin de prier pour qu'une personne soit guérie de votre entourage, demandez maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté de la personne. Le serviteur du centenier était bien loin de Jésus et du centenier. Et à l'instant où le centenier déclara ces choses, le centenier fut guéri. Vous n'êtes pas obligé de poser les mains. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté de la personne. Demandez la guérison. Demande la guérison dans la vie de ta femme. Parce que ta femme a besoin de guérison. Christian, prie pour ta femme ce matin, parce que ta femme a besoin de guérison dans son cœur. Tu veux dire quelque chose, vas-y.
Je me permets juste d'intervenir parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai reçu une image très forte qui m'est revenue cette semaine. Et ce matin, en venant en voiture, cette image revenait. Je ne savais pas ce que Bruno devait partager. Et j'ai vraiment la conviction, en tout cas, que je dois vous l'apporter. J'ai vu en fait l'image d'un cœur de manière anatomique et ensuite je voyais en fait ce qu'on appelle un monitoring, vous savez, où on voit les tracés d'un cœur, du rythme cardiaque. Et les tracés sur ce monitoring étaient complètement désorganisés jusqu'à devenir plats en fait. Et c'est ce qu'on appelle une arythmie, c'est-à-dire que le cœur ne bat pas selon le rythme auquel il est prévu. Et je voyais ensuite en fait 2 palettes. Alors les palettes, c'est ce qu'on utilise pour envoyer un choc électrique au cœur et pour remettre en ordre cette arythmie. Et ce que me disait le Saint-Esprit, c'est que ce matin, il y en a plusieurs qui ont un cœur qui ne bat pas au rythme auquel Dieu a prévu. Leur cœur ne bat pas au rythme auquel Dieu voudrait qu'il batte. Et c'est lié à ce que pouvait partager Bruno, des blessures, une âme qui est peut-être déchirée, qui a vécu des choses terribles. Et ce matin, vous avez l'occasion de pouvoir avoir ce choc électrique qui se fera avec beaucoup de bienveillance de la part du Père, mais pour que votre cœur puisse se remettre à battre selon le rythme que Dieu a prévu pour vous. Et ça concerne plusieurs personnes ce matin.
Alors on va baisser les yeux, on va prier. Et prier. Priez pour votre cœur. Si vous êtes en décalage avec le battement du cœur du Père, demandez ça. Demandez la guérison. Père, je prie pour ces personnes. Et je te remercie d'apporter l'électrochoc. D'apporter l'électrochoc dans leur cœur, Seigneur. Je te prie, Père, parce que ce matin, tu as parlé à plusieurs concernant cette relation avec toi. Et je demande, Père, maintenant, Seigneur, que tu libères ces cœurs. Que ce soit un jour nouveau. Que ce soit pas un jour où les gens vont repartir, où ces personnes-là vont repartir avec leur passé. Mais un jour nouveau avec toi. Un jour nouveau. Et je prie pour cela. Je prie aussi, Seigneur, pour les personnes qui ont des pépins physiques. Je demande la guérison maintenant, en ton nom. Moi, je ne sais pas ce que tu veux faire, ce qu'il y a, mais toi, tu sais toutes choses. Et je demande que la guérison vienne dans les cœurs. Je demande et je prie pour Virginie, qui est à la garderie. Je prie pour sa thyroïde. Je demande la guérison maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour Ophélie. Et je demande la guérison pour sa thyroïde, maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie aussi. Je prie pour les problèmes de dos. Père, manifeste ta grâce et ton amour sur les dos des personnes qui sont malades chroniquement du dos. Il est écrit que tu guéris immédiatement et sans intervention de l'homme. Seigneur, je demande la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je prie aussi, même si ça paraît fou de prier pour ça. Je prie pour que tu restaures les relations. Je prie pour une guérison dans la restauration des relations, homme, femme, épouse, époux, enfant, parent, frère, sœur. Que ce domaine-là, Seigneur, aussi, soit un domaine où tu viendras guérir, libérer, sauver, parce que c'est ce que tu déclares, Père. Et je te prie, viens guérir notre cœur d'orphelin. Viens guérir notre cœur. Viens guérir notre pensée. Viens guérir nos motivations. Viens guérir. Et viens purifier. Si nous avons fait quelque chose, nous le confessons devant toi. C'est le moment de confesser des choses. C'est le moment peut-être où vous pouvez dire, Père, je te demande pardon parce qu'à cause de ça, j'ai toujours fait ces mêmes choses. Et je te demande pardon, Seigneur. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Priez cette semaine. Dans vos maisons, priez entre mari et femme, priez, demandez, confessez, libérez les paroles. J'ai déjà dit, mais une fois, après j'arrête, hein, je suis trop long. Une fois, j'ai un homme qui est venu me voir. Il avait des problèmes d'impureté, vous savez, comme ça arrive souvent chez les messieurs, les dames aussi, mais les messieurs aussi. Il y a des problèmes d'impureté et problèmes avec la pornographie. Et vous savez, c'était extraordinaire parce que nous étions dans l'entretien comme ça et il m'a confessé ça. On n'a même pas prié. Ça vous surprend, hein ? Je n'ai même pas dû prier, chasser. Il a été libéré à l'instant où il a confessé son péché. Voyez la puissance de la confession. La puissance quand nous mettons les choses à la lumière. Waouh ! La puissance quand tu pries, même si c'est brièvement, que ça surprend ta femme. Au nom de Jésus, cheville, je te guéris. Même si ça surprend, faites-le. Commencez. Bâtissez votre foi par des actes concrets. Votre belle-mère a un rhume, priez pour votre belle-mère. qu'elle soit guérie. Manu, il était où Manu ? Il est parti le pauvre. Bon, on prie pour lui, il est venu gripper ce matin pour honorer son service. On prie pour Manu et on prie pour qu'il soit guéri. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait les choses simplement. J'ai fini.